Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on a pu voir en fin de semaine des chiffres sur la consommation d'électricité des Québécois. Conclusion, on consomme trop. Et même, on devrait réduire de 4 fois notre consommation si on veut atteindre nos cibles en matière d'efficacité énergétique. La question, évidemment, est-ce possible de faire ça? Luc?
Ça va prendre des gros changements structurels, sociologiques, tarifaires. C'est pas impossible, mais il faut s'y prendre tout de suite. Puis le message de Pinault, c'est de dire, si vous voulez arriver là un jour, moi je suis un expert, là, je suis pas un politicien, mais si vous voulez arriver là un jour, arrêtez le discours actuel qui consiste à dire, on va faire une transition énergétique. Donc, on va faire tout ce qu'on fait actuellement. Simplement, on va le faire à l'électricité plutôt qu'au pétrole. On peut attirer toutes les entreprises de la planète. Beaucoup d'entreprises de la planète. Fitzgibbon a commencé à dire non, ça va faire. Mais quand même, c'était ça le message au début. Rappelez-vous, quand Legault est allé à la COP en Écosse, à Glasgow, qui en veut de l'électricité, venez-vous-en chez nous, etc. Ça, ce message-là, ça marchera pas. Tant dans l'industriel que dans le commercial, que dans l'individuel, si on veut faire une vraie transition énergétique, faut changer les choses massivement. Puis ça, c'est quoi, ça, massivement? Puis en plus, oubliez ça, les prix, les tarifs à 3 % là. Augmentation des tarifs à 3 % par année, là. Ça, peut-être que ça peut fonctionner au forçail jusqu'à temps que le go parte. Mais il va avoir repoussé sur les épaules du prochain gouvernement l'obligation d'augmenter à 10 % par année. Parce que c'est impossible que le Hydro-Québec ait le cash flow nécessaire pour faire son programme de développement des infrastructures avec des électricités à 3 % d'augmentation par année. Maintenant, est-ce que c'est possible? T'es deux dans un condo, t'as une tour quelque part, puis tu consommes pas d'air climatisé. Vous consommez chacun 7000 kWh. L'objectif, c'est d'en consommer 2000. Vous êtes 3 fois en haut de la norme. Mais si t'es deux dans un bungalow, puis que tu mets de la climatisation et que t'as une piscine, vous êtes à 15 000 kWh chacun, les deux. 15 000 kWh, il faut vous diminuer à 2000 kWh. Ça veut dire qu'il faut que vous diminuiez de 7 fois votre consommation. Comment on peut arriver là? Ben, on peut peut-être y arriver. D'abord, on peut pas avoir, être deux dans une maison, être séparés, avoir chacun une maison, de la garde des enfants juste une semaine sur deux, et un chalet, par exemple, puis une grande maison, puis climatisé, puis avoir la piscine. Tu sais, à un moment donné, il va falloir se faire un choix dans ces 5 gros éléments de consommation-là. Tu peux dire, par exemple, je vais avoir une plus petite maison, ou je vais avoir une plus petite maison, pas de climatisation, pas de piscine, ou alors je vais très, 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 très bien isoler ma maison. Ça, c'est une possibilité. J'isole ma maison. Là. Au lieu de mettre de l'argent sur une piscine, je le mets sur l'isolation. Et je vais être capable, même en hiver, de chauffer ma maison avec le réchauffement climatique, avec une pompe à chaleur et ou avec de la géothermie. Donc, si c'est très bien isolé, s'il fait moins froid dehors, je vais être capable avec de la géothermie ou avec une pompe à chaleur. Là, je vais avoir diminué de moitié ma consommation.
Nathalie?
Ben, le discours sur l'efficacité énergétique n'est pas nouveau, là. Les premières politiques ont commencé en 2004. Donc, ça fait 20 ans qu'on sensibilise les Québécois à mieux consommer. Mais là, on change de vitesse parce que, Luc l'a bien dit, là, Hydro-Québec devra investir 185 milliards de dollars de nouveau, en termes de nouveaux investissements d'ici 2035 pour répondre à tous les besoins qui s'expriment sur le plan hydroélectrique. Et alors, on dit, ben là, il y a une occasion de faire les choses différemment, puis ça, quelqu'un devra payer pour tous ces investissements. Peut-être pour prendre conscience du privilège que nous avons au Québec, là, pour 1000 kWh d'électricité, on paie 78 $. À Boston, ils en paient 556 $. Ça, c'est des tarifs en vigueur là, au 1er avril 2023. Le Québec est un des endroits dans le monde où on paie le moins cher notre hydroélectricité. Mais en même temps, on a choisi comme société de se doter d'une société d'État. Un, de nationaliser l'hydroélectricité. Deux, de se doter d'une société d'État qui a d'abord avant tout pour mission de combler les besoins des consommateurs québécois. Alors, je pense que ça, dans le débat actuel, il faut jamais perdre de vue la mission première d'Hydro-Québec. Avec les années, on a fait d'Hydro-Québec un levier sur le plan du développement économique, mais au départ, lorsqu'on a créé Hydro-Québec, là, on était d'abord et avant tout motivé par le fait d'offrir une électricité abordable aux Québécois. Je pense qu'il ne faudra jamais perdre ça de vue. L'autre chose, tu as raison, Luc, d'insister sur le caractère gigantesque, titanesque du défi qui est devant nous. Là, on parle beaucoup ce matin de la consommation résidentielle, mais tous les secteurs devront être mis à contribution, le secteur industriel, le secteur commercial. Ce matin, Pierre-Olivier Pinault te donnait pas l'exemple des piscines et des spas.
Oui.
Alors, on perd l'équivalent de 1/8 de l'énergie produite par la Romaine parce que nos piscines sont mal chauffées, nos spas sont mal chauffés, c'est mal utilisé. Et moi, ça m'a fait bondir de mon siège. C'est énorme.
Moi, ce qui me fait dire, Nathalie,
perdue.
Ça me fait dire qu'on est des Romains. Non, c'est vrai. C'est vrai. On en
la
est là.
Romaine, les Romains.
Oui, okay, oui, parce que en termes de, je dirais pas de déchéance, mais en termes de laxisme puis de consommation, je cherche une image forte, là.
Mais faut dire aussi que il y a beaucoup de pertes liées au fait que les maisons sont mal isolées. C'est sûr que maintenant, il y a des nouvelles normes avec la régie du bâtiment, nouveau climat et tout ça, mais je pense qu'il y a encore trop de maisons, d'appartements, d'immeubles à logement au Québec qui sont mal isolés. L'autre chose que je souhaiterais dire, c'est que dans l'équation de M. Fitzgibbon, parce que c'est le premier ministre de l'énergie à nous parler de sobriété énergétique, là, c'est un nouveau concept avec lequel on devra se sensibiliser davantage, puis on devra dire concrètement ça veut dire quoi. Mais là où l'équation ou la logique ou l'argumentaire plutôt du ministre, selon moi, une faille, c'est lorsqu'il nous dit il faut économiser notre hydroélectricité pour nous permettre de donner de l'électricité ou vendre, accueillir des nouveaux projets sur le plan industriel. Il y a une faille de ce côté-là. Pourquoi? Parce que il y a un potentiel économique qui existe au Québec par rapport à nos PME, par rapport à toutes les entreprises qui sont déjà ici établies au Québec. Là, il y a un potentiel de croissance qui est non négligeable. Ce serait intéressant que son ministère fasse une étude, une simulation sur si demain toutes ces entreprises, si on donne à toutes ces entreprises les mégawatts dont elles ont besoin, celles qui sont déjà ici, installées ici, là, si on leur donnait tous les mégawatts dont elles ont besoin pour créer davantage de richesses, ben, quel serait l'impact sur le plan économique? Là, le ministre dit, ben, semble oublier tout ce qu'on a en termes d'infrastructures économiques en disant, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est créer des nouvelles filières au Québec, dont la filière batterie. Ça va. Sauf que le message qu'on entend, c'est faites tous ces efforts-là, partez votre lave-vaisselle à minuit, faites une brassée plutôt que deux, mais tout ça parce qu'on veut accueillir des Norvolts de ce monde. Là, selon moi, la faiblesse de son argumentaire, elle est là, parce qu'elle n'est pas convaincante, elle n'est pas suffisamment convaincante.
Des auditeurs disent, c'est inévitable, on est passé de 7 millions de Québécois à quoi, 9 millions de Québécois, il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, donc tu doubles
la consommation par personne.
Ben c'est sûr, parce que t'es en famille ou en couple, puis là, t'es séparé, t'as ton appart, elle a son appart, puis bon. Est-ce que les Québécois sont prêts à accepter? Parce que là, c'est pas rien ce que tu as dit tantôt, là, de dire, OK, toi, t'oublies la clim, ou c'est le chalet ou la clim. c'est une grande affaire, là.
Oui, oui, mais ça. Et pour la voiture, ça sera pareil, là. Ça sera pas la grosse Volvo électrique, là. Pareil pour le transport, là. Nathalie disait, il va falloir le faire dans tous les domaines, mais c'est vrai. Alors, est-ce que les Québécois sont prêts? Pas plus qu'ils étaient prêts à mettre le masque. Tu sais, quand tu dis aux Québécois, un jour, là, vous allez tous porter un masque, hein? Puis vous allez vous tenir à 2 mètres les uns des autres d'un party de Noël, les rires d'en face.
Oui, mais ça, c'est arrivé du jour au lendemain.
Oui,
donc là, on a du temps pour se préparer.
Mais est-ce que l'urgence, c'est que M. Legault arrête de parler d'électricité? À chaque fois qu'il parle d'électricité, c'est comme quand il parle du troisième lien. Il ne sait pas de quoi il parle. Il nous a induits en erreur, mais tellement. Mais lui-même, je pense qu'il n'était pas au courant, parce que quand il est arrivé au pouvoir, il y avait 40 TWh de surplus, puis il est resté sur cette idée-là. Mais un instant, là, pour faire ce genre de transition-là, s'il va falloir doubler ou tripler le prix de l'électricité. Quand on va avoir triplé le prix de l'électricité, qu'on sera à peu près à la hauteur de Calgary, avec Calgary, là, c'est à peu près trois fois plus cher que nous. Halifax, c'est 2,5 fois plus cher que nous. Donc, dites-vous bien, là, c'est pas la fin du monde. Halifax, ils vivent comme ça, OK? Mais ce qu'aura fait Legault, c'est dilapider le trésor. Mais une fois qu'on va avoir fait ça, je peux te garantir que l'isolation des maisons va être meilleure puis que beaucoup de gens ne chaufferont plus l'électricité.
Dernière question à tous les deux pour conclure. Est-ce que les Québécois vont pas avoir le réflexe de s'autosuffire avec des panneaux solaires, avec d'autres?
Absolument, dans les chalets notamment. Une bonne géothermie dans un chalet avec deux panneaux solaires pour l'éclairage puis une petite éolienne, ça te permet de vivre totalement hors réseau.
Nathalie?
Moi, je pense que ça va être marginal. Mais le vrai débat qu'on doit avoir, jusqu'où le gouvernement peut augmenter les tarifs d'hydroélectricité pour justifier les investissements dont Hydro-Québec a besoin pour faire son grand virage, pour doubler notre capacité en puissance installée.
Nathalie, ce que tu dis, c'est tellement important parce que t'as-tu vu les experts qui ont déposé un dossier qui disait que pour que Nordvolt ait son électricité à Saint-Saëns, il va falloir que chaque Québécois contribue pour 10 $ par année en termes de tarifs.
Ouais, ben parce que là, du côté du Québec, on envisage peut-être une politique de tarification différenciée, c'est-à-dire que les plus grands consommateurs, prenons l'exemple sur le plan résidentiel, seraient appelés à payer davantage. Moi, ce qui me rendrait inconfortable, c'est que le pauvre gars qui vit dans un demi-sous-sol paie le même tarif que quelqu'un qui vit dans une grosse cabane, puis à Weydon, les lumières sont ouvertes en longueur de journée, puis il y a clairement un débat de société qu'on devrait avoir là-dessus, mais Hydro-Québec, on envisage déjà ce concept de tarification différenciée.
Très bien. Au retour de la pause, on va parler de cette merveilleuse application Arrive Cannes qui a coûté quelques pinottes.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, je veux vous dire, parce qu'on a beaucoup de messages, et Marc en a parlé, REM, là, ça semble être un problème assez important. Là. Il y a des arrêts complets, il n'y a rien qui bouge. Il y en a qui sont sur le pont, Bassin-Pile également, donc on dit que les équipes vont se déployer, mais puis on connaît pas. Problème technique, là, on ne sait pas pourquoi, mais disons que c'est assez complexe ce matin. Bon, on va parler de Arrive Cannes, l'application qu'on connaît tous. Puis là, on a découvert combien ça a coûté finalement, puis un sous-contractant qui travaille pas l'application, qui refile le contrat, puis qui... La semaine dernière, on disait qu'il faisait jusqu'à 2600$ de l'heure, ce qui m'apparaît énorme. Alors, est-ce qu'on a des moyens de contrôle pour éviter ce genre de scandale, Nathalie?
Ben, tout d'abord, il y a longtemps qu'on a entendu notre ami Jacques Gourde, des amis, hein, qui disait...
C'est un nouveau scandale!
Méchant
libéral,
scandale.
Libéral.
Oui!
C'est un nouveau scandale! Monsieur le Président, est-ce qu'il existe un vaccin contre l'incompétence libérale?
Voilà! Voilà!
Très Jacques, vraiment, écoute, citation formidable, une pièce d'anthologie en soi. Oui, ce fameux scandale Arrive Cannes. D'ailleurs, bravo à la presse en fin de semaine qui écrit sur cet enjeu, qui résume avec un texte intitulé Anatomie d'un scandale. Faut rappeler que deux gars propriétaires faisaient ça dans leur bungalow, ouais, écoutez, puis ils ont engrangé des millions de dollars, en fait, sans contrat qu'ils ont obtenu depuis 2015 d'une valeur de 100 millions de dollars. C'est le gouvernement l'a échappé, puis ce qui est fascinant dans ce dossier-là, c'est que ça a pris le rapport de la vérificatrice générale du Canada, Mme Hogan, le 12 février dernier, pour se rendre compte à quel point il y avait des vices en matière de gestion dans la façon dont l'Agence des services frontaliers du Canada s'est comportée dans ce dossier. Elle écrit un non-respect flagrant des pratiques élémentaires de gestion. Elle a ajouté, c'est l'une des pires tenues de registre financier qu'elle ait vues de toute sa carrière. Dans la loi sur l'Agence des services frontaliers, il est dit... en matière de reddition de comptes, il y a juste une obligation, c'est de déposer un rapport annuel aux deux chambres à Ottawa, c'est-à-dire la Chambre des communes et le Sénat. Alors, non seulement on l'a échappé, mais où était le Conseil du Trésor pour s'assurer que les dépenses de ces agences se sont faites en respectant les règles de l'art, en respectant la loi? Là-dessus, le Conseil du Trésor aurait pu, parce qu'au Trésor, au Conseil du Trésor à Ottawa, il faut que vous sachiez qu'il y a un processus d'audit interne qui existe, qui permet à des ministères, de même qu'à des agences, à des organismes relevant du gouvernement, de se justifier, de justifier ses dépenses. Alors là-dessus, le Conseil du Trésor l'a solidement échappé. En fait, tout le gouvernement l'a échappé. Aujourd'hui, l'entreprise en question est exclue du marché public. Elle ne peut plus avoir de contrat qui relève du fédéral. Mais tout de même, et si vous allez sur le site de l'Agence des services frontaliers du Canada, c'est absolument fascinant. Il y a une section qui est consacrée au coût d'Arrive Cannes. C'est écrit noir sur blanc sur le site de l'Agence des services frontaliers. On prend soin de rappeler que l'application en question a été téléchargée plus de 18 millions de fois. Elle a servi à plus de 60 millions de voyageurs. Et sur le coût d'Arrive Cannes, ce qu'on dit simplement, c'est que les dépenses se sont élevées à 55 millions de dollars, mais on avait prévu 54 millions de dollars. Fait, vous comprenez que pour les agents de l'Agence de services frontaliers, il n'y a pas de scandale en la demeure.
Ben oui, mais t'es téléchargé 18 millions de fois, mais c'est un million de fois par personne.
On
ça
a
marche
pas.
Pas. Non, mais ça marche pas. T'as recommencé, recommencé, recommencé. Puis en même temps, t'as pas le choix. Non, mais moi, j'ai adoré la réaction de Kristen Furt puis Darren Anthony, là, les deux bozos, là, et de dire, hey, rendez-vous compte là, qu'avec toutes vos maudites commissions, là, vous êtes en train de ruiner notre carrière. Moi, j'étais parti sur un air d'aller, puis je pourrais plus là, mais c'est fini pour moi là. Puis malheureux le gars, malheureux de dire là, il y a plus personne qui va vouloir de mes contrats là. Il voit pas, il voit jamais qu'ils ont réalisé, admis qu'il y avait un problème. Ah non, c'est l'agence frontalière qui calcule mal. On nous avait pas donné les bonnes directives. Nous autres, on est ouvert for business. On veut faire des nouveaux contrats. C'est un état d'esprit qui correspond à une situation où rien n'est contrôlé et où le cumul des fraudes et des fautes, ce ne sont pas que des fraudes qui ont été faites. C'est un cumul. Moi, j'ai jamais vu un tel cumul. Tu sais, on a vu des... Il y a un truc qui se fait souvent dans toutes les entreprises. C'est, par exemple, tu donnes un premier contrat, puis là, ben ça, tu changes un peu la demande. Donc, tu dis, ben j'aimerais avoir tel... Dans l'application, j'aimerais aussi que tu puisses isoler les voyageurs qui sont partis depuis moins de 3 jours. Ou je voudrais que tu me fasses un tableau de bord avec le type de personne qui rentre à l'aéroport, s'ils sont canadiens ou pas, etc. Puis là, tu changes le tableau de bord. Les changements ne sont jamais soumis à un appel d'offres. Et ça, c'est la fin du monde, parce que la première affaire, tu dis que ça a coûté 800 000. Après ça, tu dis, ah, tu veux des changements? Mais les changements, je vais te tarifier 3 fois le prix. Et il y a personne qui va t'empêcher de le faire. Et ça, c'est un problème qu'il y a dans tous les grands projets informatiques. Donc, c'est pas une fraude, c'est une façon de faire, puis il aurait fallu la contrôler. Mais là où il y a des vraies fraudes...
Mais c'est pas une fraude, Luc, on verra, parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours.
Attends, il y a plein. Il y a 10 enquêtes, parce qu'il y a plein de fraudes. Mais celle-là, ce bout-là de l'enrichissement n'est pas une fraude. Là où il y a des fraudes, c'est par exemple d'avoir utilisé des entreprises par avant, parce que 1 milliard des contrats du gouvernement doivent aller à des entreprises autochtones, puis eux, ils se sont inscrits alors qu'il n'y avait rien d'autochtone, ou du moins, ils ont mis quelqu'un dans leur conseil d'administration. Ça, c'est une fraude. D'avoir prétendu qu'ils ont reçu des services de d'autres entreprises informatiques et c'était faux. C'est-à-dire, moi, je te facture pour X millions, mais là-dessus, il y a 1 million, c'est telle firme qui a travaillé pour moi, donc tu m'as pas vu travailler, mais c'est parce que telle firme travaillait pour moi, puis c'était pas vrai. Ça, c'est une fraude. Alors, donc, mais aussi là-dedans, comment se prémunir? Bon, comment se prémunir? Ça, premièrement, quand tu fais un contrat en urgence, laisse-toi dire que le gars qui est en face de toi, il le sait. Quand, par exemple, quelqu'un disait « Hey, telle rue, là, ça va être réparée en fin de semaine. » Ben, en fin de semaine, elle va te coûter 5 fois le prix. Parce que le gars est entendu dire « Tu vas la réparer en fin de semaine. » Ou « Logement social, je vous jure que le logement social au coin de telle rue va être construit avant fin de mon mandat. » Ben, il va te coûter 3 fois le prix. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les compléments, je l'ai dit, par rapport à l'appel d'offres initial. Troisième chose, les contrats informatiques, partout, tout le temps. Là, ça a dépassé de 60 fois l'évaluation initiale. C'est pas toujours 60 fois, mais c'est souvent 2, 3, 4 fois. Pourquoi? Personne contrôle les contrats informatiques. Parce que tout le monde qui travaille en technologie de l'information font bien plus d'argent dans le privé que devenir fonctionnaire. Personne veut travailler pour contrôler les autres. Tout le monde veut faire de l'argent. Donc, t'es pogné avec pas assez de monde, pas assez d'inspecteurs, des gestionnaires qui comprennent pas toujours tout, qui font des appels d'offres, ils ont pas compris l'ampleur de l'appel d'offres, ils ont pas de moyens d'inspection, ils ont personne
pour
faire
l'inspection. Mais dans le cas d'Arikan, je pense que ce sont eux, indirectement, qui ont préparé l'appel d'offres.
En plus, t'as personne pour préparer l'appel d'offres, ben ça arrive souvent, ça. Et c'est eux qui préparent l'appel d'offres, puis après ça, personne pour les surveiller. Puis c'est vrai que la nature même du travail est difficile à surveiller. Attraper une erreur en informatique dans la conception du produit, la programmation, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 semaine. Il suffit de dire à chaque fois, ça m'a pris 1 semaine.
Écoutez, ça a pris 9 ans avant qu'on se rende compte qu'il y avait un problème. L'autre chose, c'est qu'à la liste des lacunes que tu as identifiées, Luc, il y a aussi des fonctionnaires payés en double parce qu'ils travaillent en même temps comme consultants.
C'est incroyable.
Ben oui, puis en même temps, tu es consultant pour développer le produit. D'avril 2020 à octobre 2022, tenez-vous bien, l'Agence des services frontaliers du Canada a diffusé 177 versions d'Arikan. 177 versions. Méchante gang de compétents, là, toi, là. 177 versions. Maintenant, on était tout mélangé. Et ce que la vérificatrice générale du Québec dit, c'est qu'il n'y avait ni à l'Agence des services frontaliers, ni à l'Agence de santé publique, parce que les deux agences ont travaillé ensemble, il n'y avait personne qui avait la responsabilité du développement de l'application. Fait que dans le fond, les deux gars de G6 Stratégie, eux autres, ils faisaient à plus le beau temps. Tu sais, écoute, il y avait la carte blanche, les amis, le gros chéquier, oubliez ça, là, tu sais, écoute, c'est vraiment, ils ont ils ont fait ce qu'ils voulaient sur les processus de, parce que en passant, c'est toutes ces tout ce scandale nous pose des, nous fait douter de en fait nous permet de douter des mécanismes de reddition de comptes qui sont prévus pour les agences. On a une agence là en santé qui s'en vient au Québec, on a une agence peut-être qui va voir le jour en transport. Alors quel mécanisme d'imputabilité de reddition de comptes on va créer pour s'assurer effectivement que ces dépenses soient scrutées? Et moi, dans les suggestions qu'on a mises sur la table ce matin, Paul et Luc, moi j'en ajouterais une autre. Procéder en comité parlementaire à la révision systématique à tous les deux ans des dépenses qui sont faites par les agences qui relèvent du gouvernement fédéral, les agences qu'on trouve au fédéral. Pas à tous les ans, parce que c'est quand même assez, c'est un exercice important, mais mettons tous les deux ans pour être sûr de ne pas l'échapper.
Juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est le dépôt du rapport de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal.
Mmh. Oh.
On devrait trouver des choses intéressantes, comme d'habitude.
C'est un nouveau scandale!
C'est officiel. On attend le dépôt pour trouver des scandales.
C'est 23.